Voici un peu du mail au café oriental. Je refuse totalement cette
idée. Moi, c'est Lise de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, Patrick et de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Okapi et bienvenue dans cet échange citoyen. Le député national Jean-Lucien Boussa a déposé lundi 4 avril dernier au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat à l'endroit de la Banque centrale du Congo, BCC. L'initiateur voudrait avoir plus d'éclairage sur la situation qui secoue la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, DIAC, qui a connu récemment une crise de liquidité. Selon Jean-Lucien Boussa, cette affaire devrait relancer le débat sur l'indépendance de la Banque centrale dans la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire en République démocratique du Congo. Une autre opinion estime plutôt que ce débat est inopportun parce que les gouvernements demeurent la tutelle de la Banque centrale du Congo. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de ce programme. Pierre Labégie est à la réalisation. Héritier Sidiakala est à la technique et Julie Fezabongonda au standard de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La Banque internationale pour l'Afrique au Congo, l'une des banques les mieux implantées dans le pays. Depuis quelques jours, les clients de cette banque affluent dans les guichets et devant les distributeurs automatiques des billets à Kinshasa pour retirer leurs épargnes. La direction de la banque a changé et les rumeurs les plus folles sur les difficultés de trésorerie courent. Mais la banque s'exprime peu. Même réaction du côté de la Banque centrale qui estime avoir suffisamment communiqué sur cette situation. Plusieurs analystes soulignent que la situation ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus un accident de parcours, ni comme on pourrait le penser une situation liée au marché mondial, à la contraction des recettes d'exportation, moins encore à toutes les difficultés que l'économie congolaise traverse aujourd'hui. Alors ces difficultés ont commencé depuis plusieurs années et la BIAC est au refinancement de la Banque centrale du Congo. D'après eux, les difficultés de la BIAC et plus globalement ce qu'ils considèrent comme la faillite du système bancaire de la RDC, est imputable en partie à la Banque centrale du Congo. Professeur Grégoire Bakandeja, analyste sur les questions des finances publiques, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gérard.
Ont-ils raison aujourd'hui, ceux qui responsabilisent la Banque centrale du Congo, sur la situation qui prévaut à la BIAC?
Bon, la situation est un peu complexe. Je ne pense pas qu'on puisse responsabiliser la Banque centrale du Congo dans ce dossier. Les responsabilités sont partagées. Il y a des questions de gouvernance interne à la BIAC. Il y a la responsabilité du gouvernement qui avait garanti un certain nombre de crédits accordés par la BIAC. La Banque centrale aussi avait donné une contre-garantie. Donc, je peux dire que les questions de gestion monétaire et bancaire sont complexes pour les ramener à la situation actuelle où chacun fait des commentaires sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, je peux tout simplement vous dire que les responsabilités sont partagées. C'est une situation très complexe parce que la gestion d'une banque centrale comme des banques commerciales est très complexe.
Alors, cette situation, professeur, relance les débats sur le fonctionnement du système, parce que vous venez de le dire, bancaire de la RDC, qui, selon une certaine opinion, serait défaillant avec la démission de la Banque centrale de ses fonctions de la Banque des banques ou des prêteurs en dernier ressort.
Non, la banque n'a pas démissionné. C'est-à-dire que les gens doivent partir du statut de la banque. Parce que je vous ai entendu parler de la banque qui serait sous tutelle du gouvernement, alors que la banque, d'après ses statuts actuels, est une institution indépendante. Donc il faut faire une démarcation entre le statut actuel de la banque et la pratique, puisque la banque est un partenaire du gouvernement en tant que conseiller en matière de politique monétaire, ce qui fait que bon, les relations entre l'État et la banque sont un peu ambiguës, ce qui handicape un peu son indépendance affirmée par ce statut. Et cette indépendance avait été voulue par les institutions financières internationales pour permettre à la banque de travailler en toute sérénité et de conseiller utilement le gouvernement. Mais la réalité fait que la banque est parfois considérée comme une excroissance du ministère des Finances. Donc c'est un peu ça qui pose quelques petits problèmes et puis d'incompréhension lorsqu'elle doit agir sur le marché monétaire.
Alors, vous l'avez dit, les relations entre la Banque centrale et le gouvernement est un tout petit peu ambiguë, ce qui crée un flou même dans les systèmes, dans notre système bancaire. Est-ce que vous êtes d'avis que la BIAC aujourd'hui est exposée parce qu'il lui a manqué le filet de sécurité qu'est la Banque centrale et que le plus gros crédit qui pèse lourd dans les comptes de la BIAC sont venus de son désir de soutenir l'État congolais dans ses charges régaliennes?
Mais vous savez, d'abord, une banque doit avoir une attitude de prudence face à des solliciteurs de crédit. Ce qui s'est passé avec la BIAC, c'est que la BIAC a accordé des crédits à un établissement public peu crédible et cela a conduit, lorsque cet établissement public s'est trouvé dans une situation de défaillance totale, dans l'incapacité de pouvoir respecter les échéances convenues pour rembourser. Alors, le dossier est complexe parce que lorsque la BIAC a accordé le crédit à la SCPT, aujourd'hui la société commerciale, l'ex-OCPT, ce crédit pour la pose de la fibre optique, c'était une affaire de 12 millions de dollars, c'était sous garantie du gouvernement. Le gouvernement avait garanti que il se portait fort de rembourser en cas de difficulté de cette société d'État de pouvoir honorer ses engagements. Et bien, il y avait une contre-garantie de la Banque Centrale du Congo. Alors la difficulté est arrivée au moment où le gouvernement a retiré sa garantie et que la Banque Centrale, qui était en dernier ressort le compte garant, n'a pas respecté aussi son engagement de refinancer la BIAC. Mmh. C'est ce qui a fait que la BIAC a connu ses difficultés. Mais au-delà de l'intervention de la banque, la BIAC aussi, en interne, n'avait pas une politique prudentielle lui permettant d'assurer une gestion efficace de ses finances, notamment par le gonflement de charges de gestion par rapport à ses activités principales qui sont de financer les grandes économies. Donc c'est un peu plus complexe. Normalement, la banque aurait même pu jouer depuis longtemps son rôle de supervision bancaire en prenant une mesure administrative, mais les négociations ont traîné, il y avait des promesses, c'est en dernier ressort que face à l'incapacité de cette banque, la banque centrale finalement, en concertation avec le gouvernement, a été amenée à donner un peu du tonus à l'institution pour que la banque ne tombe pas en faillite, parce que si elle tombe en faillite, c'est l'ensemble du système qui va en subir les effets. Et il faut toujours dans un pays faire un effort pour que le système bancaire fonctionne normalement. Ça permet de crédibiliser les finances du pays et c'est dans ces conditions-là que nous sommes retrouvés avec cette intervention d'ultime recours qui, normalement, n'enlève en rien aux difficultés et qui sont réelles. Ce n'est pas la décision qui va résoudre tous les problèmes, il faut encore qu'il y ait une rationalisation de la gestion de la banque en diminuant ses charges, en réorganisant l'ensemble de sa direction pour donner plus d'efficacité en maîtrisant un certain nombre de charges.
Voilà, alors vous avez évoqué les cas de la SCPP, la SCPT, mais il y a également la BIAC qui a consenti un prêt important à la police nationale pour son équipement. Alors l'État s'était porté garant pour rembourser ses crédits. La BIAC avait reçu une garantie plus importante, vous l'avez dit, celle de la BCC qui a instruit une autre banque de la place, et cette banque, d'après certains rapports, aujourd'hui, et les analystes des uns et des autres, est citée sur le document de Panama Papers. Donc, pour dire qu'il y a quand même un flou dans les systèmes bancaires aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la loi bancaire souffre quand même d'application aujourd'hui, cette loi, ces textes qui régulent les systèmes bancaires de la RDC?
Mais vous savez, les lois sont appelées à évoluer. Plus l'évolution économique, l'évolution, le contexte international évolue, il faut nécessairement qu'on retouche un peu la loi bancaire. Vous savez, au Congo, les gens se fient toujours à des lois. Mais les lois doivent s'adapter à l'évolution de la société. Il y a le contexte international qui fait que les réformes qui sont engagées sur le plan international ont des incidences sur le plan interne. Alors si on continue à se figer aux lois qui deviennent pratiquement obsolètes par rapport à la pratique, et vous savez, nous sommes en matière bancaire, c'est plus la pratique bancaire que les lois qui font la vie des banques. On n'allait pas demander aux banques congolaises de rester en marge par rapport à la réalisation de produits sur le plan international. Donc c'est un peu ça la difficulté. On a encore l'image des banques anciennes qui étaient là. Or, les banques évoluent dans un contexte mondialisé, globalisé. Donc elles doivent suivre les règles qui se passent sur le plan international. On les adapte un peu.
Voilà, donc parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les uns et les autres se regardent en se défaillance, chacun tire les draps de son côté, personne ne va endosser la responsabilité de cette situation qui prévoit actuellement à la BIAC. Nous allons recueillir les points de vue des uns et des autres, en tout cas les auditeurs qui ont accepté de participer dans cette émission, dans cet échange de citoyens. 081-890-6315, nous vous gardons en ligne, professeur, et nous allons recevoir de moment à l'autre Maître Trésor Likosa et Maître Soville de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Maître Trésor, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Agir.
Vous avez la parole. Quelle est, selon vous, la responsabilité? Qui est le responsable numéro un? Ou encore, comment partagez-vous les responsabilités par rapport à cette situation qui traverse actuellement la BIAC?
Merci beaucoup. Permettez-moi de m'acquitter d'abord de cet agréable devoir de saluer le doyen professeur Grégoire Bakandeja, qui nous avons invité la culture de suivre l'actualité sur tout ce qui concerne les finances et tout ce qui concerne l'argent en général. Et le professeur a déjà décrit la situation, il a donné avec des termes techniques et il a bien grossé la situation par rapport à ce que nous pouvons comprendre concernant la BIAC. Je pense que moi, je n'ai pas à dire tel ou tel autre est responsable de la situation qui se vit actuellement au niveau de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Mais du moins, nous avons monitoré à travers les différentes agences de la BIAC qui a touché à ça, et nous avons compris l'engouement qu'il y a eu depuis le week-end jusqu'au début de cette semaine à travers toutes les agences de la BIAC. Et nous avons compris que c'est une banque commerciale importante que nous avons dans ce pays. Et quand, personnellement, j'ai suivi une réunion de la Troïka stratégique où le Premier ministre avec ses collaborateurs avait décidé de traiter de cette question et a donné la position du gouvernement par rapport à cela pour sensibiliser tout le monde en disant qu'il n'y a pas un problème qui puisse être dangereux pour les épargnes et pour les clients de la BIAC. Et j'ai compris qu'il était nécessaire pour le gouvernement de le faire étant donné que l'argent qui est logé dans les livres de la BIAC appartient aux Congolais, aux expatriés, à beaucoup de gens à travers le monde, cette situation nous a plus rassurés et a permis que nous gardions notre calme. Également, la Banque centrale aussi a suffisamment informé sur cette situation, elle a communiqué, elle a donné son point de vue, sa position. La crainte était d'attendre la Banque centrale une décision, peut-être déclarant la faillite de la BIAC, mais cela n'a pas été fait, donc la BIAC continue
à fonctionner normalement. Oui, Maître Trésor, vous vous souvenez, dans cette émission, nous avons eu à évoquer, tout en analysant toujours, quelques faiblesses de la loi bancaire en RDC. L'analyste que nous avons reçu dans cette émission l'année dernière avait même annoncé que cette situation qui devait en principe arriver. Mais nous, à notre niveau, nous avons dû à l'époque que c'était pas une fatalité, on pouvait l'éviter. Mais dommage que cette situation est finalement arrivée. Et je crois que au niveau certains analystes s'en sont sortis fiers parce qu'ils avaient prédit cette situation. Mais au regard de cette situation qui prévaut actuellement à la BIAC, c'est vrai, vous avez dit, il n'y a pas péril en demeure parce que vous croyez à l'affirmation de la réunion de la Troïka. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est la situation de la BIAC, ça pourrait aussi être la situation de BCDC ou encore d'autres banques partenaires à la BCC. Mais ça relance le débat sur le rôle que doit jouer effectivement la Banque centrale. Vous avez suivi notre invité qui a parlé tout à l'heure de relations entre la banque et les gouvernements qui semblent être un peu ambiguës. Est-ce que vous partagez cet avis?
Parfaitement, je partage cet avis puisque le doyen professeur Grégoire Bakande a toujours regretté l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du ministère des Finances et du gouvernement. C'est une question qui a suscité beaucoup de débats au niveau de la faculté. Et il ne cesse pas de le dire, souvent quand il enseigne. C'est une question qui suscite aussi beaucoup d'autres questions partant des inquiétudes. Puisqu'aujourd'hui, l'honorable Jean-Lucie Boussa, qui a
initié une question orale
au bureau de l'Assemblée nationale, un débat autour de la question en convoquant les responsables de la Banque centrale. Bon, la question a été également soulevée à l'époque par l'honorable Emery Okunz, lorsqu'il y avait une probable vente d'un immeuble de la Banque centrale. Mais lui avait plutôt interpellé le ministre des Finances de l'époque. Mais celui-ci, en répondant à la question orale et avec débat de l'honorable Emery Okunz, il avait simplement dit que la Banque centrale est une institution indépendante et qu'à cet effet, lui, en tant que ministre des Finances, n'a rien à dire si ce qui concerne la Banque centrale. Et aujourd'hui, on interpelle ou bien on invite
la Banque centrale,
le gouvernement qui doit se présenter. Mais moi, je me demande, ce sera sur base de quel texte le gouverneur de la Banque centrale, quand il va venir, il va parler au nom de quelle institution, au nom du gouvernement, il est le mandataire du gouvernement.
Oui, parce qu'il s'agit oui. Je ne sais pas si vous comprenez, comme d'autres experts, qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes qui sont posés dans cette situation. Il y a, d'une part, la responsabilité du gouvernement, le gouvernement qui a employé, en fait, qui a sollicité un prêt auprès de la BIAC, mais qui a donné comme garantie la Banque centrale du Congo.
La Banque centrale du Congo, bon, c'est quand même une autorité monétaire qui veille aussi sur les activités, le fonctionnement des banques commerciales. Bon, parler de la responsabilité de la Banque centrale par rapport à cette question de la BIAC, je trouve que c'est précipité puisque au moment où nous parlons, il y a les clients de la BIAC qui sont en train de retirer leur argent. La situation est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Quand même il y a eu ces problèmes-là, mais moi je me demande comment le gouverneur de la Banque centrale doit se présenter à l'Assemblée nationale.
Voilà, sur base de quel texte? Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Likonza. Merci beaucoup, Maître Likonza, d'avoir appelé. On va prendre Maître Sonville qui est à l'Ubrasi. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour à notre invité, le professeur Grégoire Vakandeja, et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs, les millions d'auditeurs de la radio Fatih.
Oui, c'est vrai, votre prédécesseur a évité de responsabiliser les uns et les autres par rapport à cette situation. Mais est-ce que vous avez le même sentiment aujourd'hui qu'il ne faudrait pas penser à responsabiliser quelqu'un par rapport à cette situation? Ou bien il faut vous poser la question, comme les autres l'ont fait, sur le rôle que doit réellement jouer la Banque des Banques, qui est la Banque Centrale du Congo?
Monsieur Gilles, je suis que nous ne pouvons pas numérer. Moi, je trouve directement la réflexion du professeur Grégoire Vakandeja, en disant que la responsabilité est partagée entre la banque et le gouvernement par l'entremise de la Banque Centrale Congolaise. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, les premiers gestionnaires de cette banque-là, ce sont les dirigeants de la Banque Internationale d'Afrique au Congo. Et cela pose un problème de gouvernance interne. Est-ce que vous êtes ignoré avec moi, monsieur Chio? Il y a eu des tournements par M. Beck, mais donc en son temps, de 5 millions de dollars, et là, il ne fallait pas d'une façon externe à la banque puisse venir à côté de cette organisation afin d'éviter ce détournement. Hormis ce détournement-là, il y a eu encore un autre détournement au niveau de l'embarché avec un chauffeur en partant de l'aéroport avec 1 million de dollars. Tout ce tour-là n'a pas encore été comblé. L'année, les années sont passées. On ne sait pas où même, à quel niveau se situe ce dossier-là sur le plan judiciaire. Et si je parle du gouvernement, de la banque, puisque la ligne de financement est suspendue par la BCC, la ligne de financement en droit congolais, pourquoi la banque doit suspendre cette ligne de financement? Hormis cela, M. Gilles, vous avez parlé de la dette octroyée à la société commerciale de postes et télécommunications, sous l'égide de la banque et du gouvernement qui a pris comme garantie la banque commerciale et la banque centrale. Et hormis cela, il y a aussi la police. Il y a aussi pour la police. Et aussi, on ne peut pas parler seulement de la banque centrale. On peut y ajouter même les crédits qui sont compromis, les crédits de notoriété, aux ministres, aux députés, aux grandes personnalités. À ce moment-là, moi, je dis que la responsabilité est partagée entre beaucoup de gens, mais principalement entre la FIAC et la banque congolaise, de la banque centrale congolaise.
Alors, est-ce que vous appuyez les autres, Maître Sophie, est-ce que vous appuyez les autres qui soutiennent l'idée de repenser, en tout cas de revisiter les textes qui, en fait, portent sur la régulation, la réglementation même du système bancaire de la RDC? Parce qu'on sent, on sent que l'indépendance de la banque, la banque centrale n'est pas vraiment démise.
Oui, tout à fait, M. Gilles, il faudrait qu'il y ait une certaine réglementation de cette loi pour essayer un peu d'épargner les pauvres Congolais qui sont épargnés dans certaines banques. S'il y avait une réglementation, peut-être que cette situation macabre ne pouvait pas venir à cette banque. Or, aujourd'hui, M. Gilles, on parle du retrait ici à Lubumbashi. Le retrait est plafonné du côté de vie. Ce n'est que 500 dollars qu'on peut réussir. Et du côté des francs congolais, 1 million de francs congolais, c'est une situation qui est anormale. À cet instant où nous disons, il faudrait que la Banque internationale d'Afrique au Congo passe au recouvrement des crédits compromis, comme je l'ai dit, et que la banque passe au marketing agressif, essayer de bien vendre cette banque-là auprès de la cliente.
Voilà, merci beaucoup, Maître Sonville. Mais la plus grande question aujourd'hui, c'est vrai, la banque commence à reprendre timidement les activités, parce que ce matin, nous avons vu également l'attroupement devant les distributeurs ou encore devant les agences de cette banque internationale pour l'Afrique au Congo. Mais, la plus grande question revient, est-ce le gouvernement congolais a remis à cette banque ce qui lui est dû? C'est ça la question. Maître Tudy, vous êtes à Kindu, bonjour. Et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur J.R.M. Ngombo.
Vous avez la parole, quel est votre avis?
Oui, mon avis est que, d'ailleurs, je salue le professeur Ntogona qui est au plateau avec vous là, mon professeur de Kouba Kambé, c'est un que j'aime tant. Mon question repose sur le message que le professeur pourrait nous donner, puisque c'est pas tout le monde qui peut accéder à des concepts économiques et bancaires, je vous plaît. Il y a des plafonnements, on ne sait pas maîtriser cela. Nous voulons que le message des professeurs soient
Maître Goudy, on ne comprend pas,
parce qu'avec le nouveau système là, matière de façonnement, c'est-à-dire quoi, puisque le retrait même pose problème, on ne sait pas la diacre, on ne sait pas se dépanner, on ne sait pas expliquer, et aussi la banque centrale, on ne sait pas nous communiquer, nous informer qu'est-ce qu'il y a au juste, c'est pour cela que nous appelons pour être éclairés.
Oui, maître Tudy, la grande question, vous avez eu à faire quand même une observation par rapport à la situation. Est-ce que vous pensez que le premier responsable dans cette affaire, c'est le gouvernement, comme le pensent certains observateurs?
Oui, je veux dire sur le gouvernement par le biais de la Banque centrale du Congo qui assure le fonctionnement et le financement de toutes les banques privées au Congo, bien sûr, mais le fonctionnement, l'assurance au quotidien, c'est la banque elle-même, c'est la BIAC elle-même qui doit prendre ses responsabilités en main. On ne peut pas se prévaloir de sa propre culpitude. Monsieur Gérard, pourquoi la BIAC ne sait pas se dévoiler sur à la liquidation, que la banque est allée à régression? Elle a qu'à dire aux abonnés, aux clients que nous sommes de la BIAC.
Voilà, merci beaucoup, Maître Tudy. Vous revenez sur ce qu'a dit tout à l'heure notre invité, la gouvernance interne au niveau de la BIAC et la responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Merci beaucoup. Jean des Dieux, vous êtes à Kipik. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur Sinalus et à notre invité, les millions des auditeurs de la radio Kapi.
Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Oui, mon avis est surtout basé par rapport à ce que le cité a dit sur le problème de la BIAC, c'est par rapport à la responsabilité interne de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo elle-même et la gestion d'elle-même de la banque. Aujourd'hui, par rapport à cette thématique d'aujourd'hui et à ce problème de la BIAC, nous a fait perdre dans la ville de la manière où aujourd'hui on peut prendre le gouvernement comme responsable de la faillite de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Or, les pays pouvaient évoluer et par rapport aux partenaires du G, sûr dans notre pays, et qui voulaient quand même faire la relance de l'économie de notre pays. Si aujourd'hui on peut voir que c'est le gouvernement qui est responsable de cette catastrophe de la Banque internationale du Congo AI par rapport à ce qu'il y a, où les gens n'ont pas confiance et à retourner encore à la banque pour mettre leur argent, et il n'y a que des retraits qui est là de plus en plus, les gens où ils ont peur même d'aller encore dans d'autres banques locales pour dire même situation de la disposition aussi et intervenir dans d'autres banques partenaires sont dans la ville. C'est ce que je pose d'abord la première question à notre invité. Si qu'aujourd'hui, la BIAC a eu ce problème-là, parce que tout le monde dit que c'est la Banque centrale du Congo qui avait apporté l'argent à la BIAC et qui ne voulait pas retourner. C'est pourquoi dans les caisses, dans les comptes de la BIAC, il n'y a rien. Les gens qui voulaient même retirer de l'argent, s'il a besoin de $500, lui dit non. Nous te donnons $100 parce que dans la caisse nous n'avons rien. Cause, c'est la Banque centrale du Congo qui a créé tout cela. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce que le gouvernement pouvait répondre à tous les milliers qui épargnent de l'argent à la BIAC? Parce que tout le monde sait maintenant que c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Et alors, comment remédier pour faire pour que les milliers d'épargne puissent rentrer à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo et
voilà, merci. Merci beaucoup, Jean des Dieux. Vous revenez comme les autres sur la question sur les refinancements de la BIAC par le gouvernement. Il y a également un flou depuis fin novembre 2015. Lorsque la banque a commencé avec ses opérations, et aussi un de vos prédécesseurs a insisté sur la suspension même de cette ligne de crédit qu'on accordait à la banque, disons la suspension de la ligne de crédit. Donc voilà, on verra un peu avec notre invité par rapport à toute cette question. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, puis de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Professeur Grégoire Bakandesha, vous êtes avec nous. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, l'idée qui traverse l'esprit donc des uns et des autres, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de refinancement de la BIAC par la Banque centrale a fait défaut, ce qui a causé, entre autres, cette difficulté de liquidité au niveau de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo.
Monsieur Gérard, je voudrais d'abord saluer Maître Trésor, Stanley Hill et Routoubou qui ont eu cette gentillesse de me saluer aussi à travers cette émission. D'abord, je dois vous dire que l'intervention du gouvernement et de la Banque centrale, bien que tardive, est salutaire. Dans ce dossier, ce qui a manqué, c'est la communication. Vous savez que la monnaie, c'est la confiance. On n'a pas suffisamment communiqué tant au niveau de la BIAC qu'au niveau du gouvernement pour faire comprendre les enjeux qu'il y a dans ce dossier. Pourquoi on dit que le gouvernement est responsable? Parce que c'est le gouvernement qui avait sollicité le financement pour notamment pour la police et puis même pour la SCPT. Le gouvernement avait donner la garantie que, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces lignes de crédit, le gouvernement interviendrait. Or, le gouvernement a dû retirer, dans le cas d'espèce de la société commerciale de poste de télécommunication, le gouvernement a dû retirer sa garantie et en même temps, et pourtant la BIAC avait pris toutes les dispositions parce qu'avant d'accorder ce crédit elle avait sollicité de la banque centrale la contre-garantie et la banque avait aussi s'était adressée au gouvernement pour s'assurer que le paiement interviendrait que sa contre-garantie elle interviendrait que dans des situations tout à fait exceptionnelles. Alors ce qui a peut-être manqué au niveau de la Banque centrale, c'est au niveau de sa direction de supervision qui aurait dû, à partir de ce nombre d'informations, savoir un peu plus de ce qui s'est passé en interne au niveau de la gestion de la BIAC. Il y a un auditeur qui a posé la question du plafonnement, par exemple, je crois que c'est Maître Tudy qui a parlé de la question. Le plafonnement intervient souvent lorsqu'on constate que une sortie importante des fonds d'une banque, je dirais que la banque va effectivement manquer de crédit. Et si tous les clients viennent pour sortir de l'argent, ça va créer un gouffre pour la banque. Mm-hmm. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on plafonne. Mm-hmm. Ce sont des mesures de sauvegarde pour éviter que la banque se retrouve en état d'absence de liquidité pour répondre aux demandes des clients. Mm-hmm. Voilà pourquoi on met, mais ce sont des mesures qu'on prend lorsqu'on constate qu'il y a des risques de voir l'institution bancaire être en difficulté d'honorer ses engagements. Donc, je crois que, puisque vous avez posé la question au départ, pourquoi on doit inviter le gouverneur de la Banque centrale pour qu'il aille s'expliquer à l'Assemblée nationale, je crois qu'au niveau du Parlement, on se trompe un peu d'époque. L'époque de la Deuxième République, la banque n'avait pas son statut actuel d'une institution indépendante. Alors, en principe, les parlementaires ne peuvent pas inviter les institutions indépendantes à venir s'expliquer pour donner la... C'est beaucoup plus technique. La personne indiquée, ou bien le responsable, serait le ministre des Finances, et pas le gouverneur de la Banque centrale. vient de la Banque centrale. Qu'est-ce qu'il viendrait bien dire, expliquer aux députés sur des questions techniques? Je sais que les députés ont le droit de savoir ce qui se passe, mais c'est au niveau des institutions, organismes publics, et pas la Banque centrale qui est une institution indépendante. Moi, j'interviens parce que moi, je suis un ancien de la Banque centrale.
Oui, est-ce que professeur,
à la réforme, oui, de, oui. Je sais quelle bataille a été menée pour que cette banque arrive à avoir son
potentiel,
malgré ce statut, elle est encore liée par un cordon ombilical avec le gouvernement, parce que bon, il y a une convention qui lie la banque au gouvernement en tant que caissier de l'État et puis conseiller en matière de politique monétaire. Tout ça, ça fait un peu embrouillé et ça ne permet pas aux gens de comprendre tout ce qu'il y a comme structure, d'où l'intérêt de revisiter les textes organiques de...
Oui, mais professeur, il y a quand même quelques inquiétudes dans le sens où tout le monde sait que le rôle d'une banque centrale est et reste la supervision bancaire et à ce jour de travailler dans le sens de la stabilité du système financier national et la mise à l'œuvre de la politique monétaire. Alors, quand il y a déjà un couac où il y a des problèmes constatés dans le système, je crois qu'ils doivent répondre quand même pour apporter quelques éclairages auprès des élus. Pardon, ceux qui représentent la population.
Oui, ben, je vous dis tout simplement que ce n'est pas au gouverneur de la banque de venir répondre. Je crois que la banque et autorité monétaire, bon, j'entends la question de l'autorité monétaire ailleurs, les autorités monétaires, c'est le président de la République, les ministres des Finances, tout ça sont des autorités monétaires. Mais au Congo, on a voulu que la banque soit autorité monétaire. Alors, donc, je ne pense pas que une intervention du gouverneur puisse changer un certain nombre de choses. Le gouverneur viendra seulement pour dire, bon, le gouverneur peut venir pour par respect pour les parlementaires, parce que bon, il faut toujours du respect vis-à-vis de l'institution, de le Parlement, mais en réalité, ce n'est pas sa responsabilité directe. Sa responsabilité, c'est en tant que protecteur du système bancaire pour qu'il ne s'effondre pas, c'est ça son rôle, c'est pourquoi il doit contrôler les activités des banques commerciales. Je ne pense pas que dans le cas d'espèce, la banque ait trouvé une faute directe dans la gestion de la BIAC, mais la faute provient du fait que le fait de n'avoir pas reçu le financement attendu du gouvernement et qu'elle n'a pas pu faire jouer sa compte garantie pour des raisons que peut-être le gouverneur pourra expliquer, en ce moment-là, on peut penser qu'elle n'a pas joué son rôle. Je vous dis tout simplement que les interventions sont tardives, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la Banque centrale, mais elles sont salutaires. Il faut maintenant que les gens communiquent pour expliquer comment ça fonctionne. Et c'est le rôle des nouvelles autorités de la BIAC. Vous n'allez pas demander à la Banque centrale de venir expliquer comment on va résoudre le problème. C'est un problème interne. Du fait que la BIAC est parmi les structures bancaires qui travaillent avec le gouvernement, et les agences qui payent les agents de l'État, etc. Donc, si une panique est provoquée par les difficultés de la BIAC, ça va se répercuter sur l'ensemble du système bancaire. C'est la raison pour laquelle ces interventions du gouvernement de la Banque centrale devraient normalement intervenir bien avant que la situation soit celle que nous connaissons aujourd'hui, mais il était temps qu'on réagisse très vite. Je crois
voilà. Alors on va prendre.
Il n'y a pas lieu de paniquer.
Voilà, il y a une
reprise s'opérera lentement, mais cette reprise implique que au niveau de la gestion de la banque, qu'il y ait une redimension de ses activités, parce qu'on ne peut pas multiplier. Plus vous multipliez les agences, plus vous multipliez les problèmes, parce qu'il faut gérer ces agences. Et les avoir qui sont dans ces agences.
C'est ça. Alors, on va prendre Jérôme qui nous a appelé de Bounia et Joseph qui est à Lubumbashi. Jérôme, vous êtes avec nous, bonjour.
Ah, bonjour, JR. Bonjour, la radio Kati.
Quel est votre avis?
Bon, en fait, JR, oui, vous le connaissez à l'heure actuelle. La politique monétaire est considérée comme l'instrument essentiel de l'économie générale même d'un pays. Mais de la situation qu'on se retrouve actuellement avec la BIAC, prenons dans la gestion de toute activité commerciale, il y a quand même ce que l'on appelle le principe de prudence qui voudrait même les charges probables doivent être comptabilisées, doivent vraiment doivent tenir compte pour éviter des cas où on arrive aujourd'hui. Maintenant, là, la bière qui est en problème, on nous dit voilà, et que la bière a prêté de l'argent pour la société de communication et a garanti sur la banque centrale. Et la banque centrale n'intervient pas à temps au porté jusqu'à ce que les clients de la banque constatent qu'il n'y a pas assez de provisions au niveau de la banque et ils commencent à se faire des problèmes avec la banque. Or, quand on connaît que la banque centrale est appelée la banque des banques et que dans un de ses rôles, la banque centrale a aussi comme attribution des fois de rescoter le fait au départ et escorté par le banque commercial, ils sont par difficulté de trésorerie avant l'échéance prévue dans les accords au départ. Maintenant, là, on est dans une situation que la banque centrale ne sait plus approvisionner la BIAC à ça et que les contribuables, à l'état, le client perdent la confiance de la banque. C'est regrettable. Parce que vous vous en souvenez dans une des émissions de la radio Capia Parole aux auditeurs, où on parlait de contribution des parents pour supporter les enseignants. Il y a un intervenant, oui, un enseignant à l'époque qui aurait dit que l'expérience doit être définie comme l'ensemble des erreurs corrigées. Mais chez nous, avec la situation bancaire d'une manière globale dans notre pays, a vraiment une mauvaise histoire. Prenez dans le cadre espèce de Bounia, comment les gens ressentent cette histoire de la BIAC. À Bounia, d'une manière globale, les années 2007-2008, il y a les institutions financières, le maison d'épargne, ils ont ouvert beaucoup de succursales, beaucoup de maisons d'épargne, et les gens sont allés placer leur argent là-bas, parce qu'à l'époque, le slogan était que non, nous avons la garantie des banques centrales, même si aujourd'hui nous connaissons des difficultés, la banque centrale va vous approvisionner à fond et vous ne serez jamais déçus, nos clients. Et que ces institutions financières sont parties avec l'argent des clients jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, s'il faudrait partir des principes de l'expérience comme ensemble d'erreurs corrigées, faut-il corriger les erreurs de nos parts, nous les clients, de ne pas aller vers le banque, parce que le banque et les institutions financières d'une manière globale dans notre pays laissent les clients dans le désarroi, mais faut-il aller vers le banque? Ou soit que ce sont les banques qui doivent corriger leurs erreurs, leurs institutions financières d'une manière globale pour aider au moins ces pays aussi à avancer. Parce que les banques doivent monétiser les crédits. Alors, cette façon-là de faire chaque fois, vous placez de l'argent avec beaucoup de confiance, au lieu que les banques jouent leur rôle de monétisation du crédit, les banques, bien au contraire, vous trimballez le bras au moment que vous avez besoin d'entreprendre des activités comme ça. Prenons-vous un exemple en place ici à Bounia. Moi, je sais, il y a une banque comme ça qui propose aux agents de l'État, voilà, nous allons vous octroyer des crédits, voilà nos formulaires, vous remplissez de telles garanties, on va vous le faire. Dès qu'on a rempli, il fait de cela. Il en est plus, on dit, c'est essentiellement, le processus sont en cours, attendez d'ici là. C'est-à-dire, le banque, d'une manière générale au Congo, n'offre pas la garantie. Alors, ce qui nous effraie, c'est vraiment que la BIAC avait prêté de l'argent pour la société de la communication à garantie. Il y avait la banque centrale, ou soit la banque centrale, une sorte de sophisme, essayer de masquer le client comme d'habitude pour qu'on habite dans le plus profond.
Merci beaucoup, Jérôme.
Vivre dans le comme d'habitude. C'est regrettable de telle situation.
Merci beaucoup, Jérôme. D'ailleurs, le gouvernement a pris comme décision cette fois-ci, donc il y a la primature qui s'est voulu rassurant quant au dossier. Elle appelle donc à l'observance de trois conditions. Nous avons tous suivi les communiqués, à savoir le suivi strict par la BIAC d'un plan d'action. Les refinancements ne peuvent plus être accordés en blanc et il se fera désormais moyennant présentation des aspects de qualité. Voilà, et tant d'autres, nous vous épargnons de tous ces détails. Voilà, Joseph, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Joseph.
Bonjour, J.R. Ndongo. Bonjour, au professeur Batambeza.
Quel est votre avis, Joseph?
Mais le professeur a été clair. Il est venu rejoindre le propos de l'expert maison, monsieur fait, le nom m'échappe.
Michel Somoué.
Oui, je n'ai pas fait d'autonomie, mais le professeur, je crois, il mérite d'être appelé professeur, parce que déjà à partir de ses propos, même celui qui n'a pas fait l'autonomie comprendra que c'est pour rien qu'on incrimine le gouvernement dans cette affaire. Le gouvernement vient en qualité d'un emprunteur, il vient emprunter à une banque qui n'est pas soumise à des conditions du gouvernement. La banque n'a pas été intimidée pour octroyer, selon ce que j'ai suivi de M. Somoué, 30 millions de dollars pour le relancement de l'SPT. Non. Une autre erreur que cette banque connaît, il emploie beaucoup d'expatriés. Derrière ça, ce sont des salaires exorbitants et ces expatriés ont beaucoup d'obligations. C'est vraiment le.
Voilà, merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup. Joséphine, vous êtes à Boston. Madame Joséphine, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ah, bonjour, Radio Capilla. Je vais dire ceci. Je crois que notre invité l'a déjà dit. La banque, pour moi, c'est une mutuelle. Vous savez, la mutuelle, c'est composé par la population. Maintenant, au Congo, on marginalise beaucoup la population, les petits peuples, comme on les appelle. Et je crois que la banque, quand la BIAC a donné des prêts, il y avait eu des collatéraux, comme on les appelle.
Des effets collatéraux.
Les garanties.
Voilà.
À la fin, on voit c'est le gouvernement congolais qui était la garantie de du prêt. Maintenant, moi, je me demande pourquoi le gouvernement ne veut pas honorer le prêt qu'il a garanti. Pourquoi le gouvernement ne veut pas donner? Dans le problème, quand il y a le problème d'argent avec la banque, c'est les intérêts. Quel a été l'intérêt qu'on a chargé au prêt là? Si c'était exorbitant, c'est à ce moment-là la banque qui a l'argent qu'on a prêté, c'est à ce moment-là le prêteur n'a pas donné l'argent à cause des intérêts. Donc, il y a un flou, on doit nous dire les intérêts étaient de combien. Pourquoi le gouvernement ne veut pas payer?
Madame Joséphine, est-ce qu'en ce moment, on peut encore poser la question du taux d'intérêt dès lors que c'est la Banque Centrale qui est l'autorité monétaire qui a même fixé déjà le taux directeur?
Je crois qu'on doit parler du taux d'intérêt. Si c'est exorbitant, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à payer. Et quand le taux est exorbitant, c'est-à-dire que la banque profite beaucoup, c'est pour cela que les gens qui ont pris l'argent ne veulent pas payer. C'est à cause des intérêts.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis. Nous revenons dans ce studio et en ligne le professeur Grégoire Bakandeja, qui modère cette émission en tant qu'invité. Professeur, vous êtes avec nous, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Quelle est votre réaction?
La réaction, c'est que je constate que les intervenants ont argumenté de manière pertinente et maîtrisent bien le dossier de la BIAC. Moi, je voudrais simplement rassurer tout le monde. L'affaire BIAC est un incident de parcours dans toutes les banques. C'est des choses qui arrivent lorsqu'on gère, il y a toujours des ratés. Le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au niveau de la banque, la BIAC elle-même, des réformes de structure et des réformes structurelles organisationnelles doivent être entreprises pour redimensionner cette banque, parce qu'il me semble bien que les activités qu'elle a exercées ne l'ont pas été dans la prudence exigée d'un banquier. Ensuite, le gouvernement doit repenser sa politique. Je crois que dans le communiqué que vous avez signalé le Premier ministre, il va être beaucoup plus regardant vis-à-vis des activités des banques commerciales. Et au niveau de la Banque centrale, la banque doit jouer pleinement son rôle de protection de l'épargne publique. Parce que quand il y a panique dans la société, les effets systémiques sont dangereux pour un pays comme le nôtre. Il ne faut pas qu'on revive les situations des années 90 où les gens étaient amenés à faire la thésaurisation, ce qui a conduit à des envoyés. Sans les banques, il n'est pas possible de financer l'économie d'un pays. Les banques sont là pour accompagner les agents économiques dans la mise en œuvre des projets de développement. Si les banques ferment, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir, parce que l'État lui-même aura des difficultés. Il ne doit plus intervenir dans tous les secteurs. Il faut nécessairement que les banques fonctionnent normalement et que les gens aient confiance. Et je pense que dans la situation actuelle, il n'y a pas lieu de paniquer. C'est vrai, la BIAC est une des banques importantes. Il y en a d'autres qui sont là. Le plus important, c'est que la Banque centrale joue effectivement son rôle de contrôle, de régulation du système bancaire pour que des cas du genre BIAC ne se répètent pas. On a confiance dans le fonctionnement de l'institution Banque centrale. Il ne faut pas que les gens perdent confiance. S'ils perdent confiance, la monnaie va en subir aussi les effets, puisque en ce moment-là, nous ne pourrons pas être en mesure de répondre aux
questions. Alors, on va prendre un autre auditeur qui nous arrive. François, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, François.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, François.
Oui. Alors, moi, je voudrais être direct, hein, parce que dans toute cette affaire, je crois que le gouvernement doit être responsabilisé. Parce que c'est le gouvernement qui a demandé à la BIAC d'accorder le crédit. Hein, par exemple, pour la fibre optique ou bien pour les voitures des médecins. Et tous ces emprunts qui ont été effectués auprès de la BIAC. Le gouvernement devait donner son accord et donner des moyens pour que la BIAC continue à fonctionner. Maintenant, la BIAC est devant le ministre. Et le gouvernement doit prendre aussi ses responsabilités, c'est de sa faute. Parce que c'est l'actuel premier ministre, d'après ce que nous aurions dit, monsieur Matata, qui était ministre des Finances et qui avait cautionné cela, qui avait demandé à la BIAC d'accorder tous ses crédits. Et maintenant, la BIAC est dans les difficultés. Comment le gouvernement peut lui tourner le dos pour le mettre devant le ministre? Je crois que le gouvernement doit être responsable, c'est lui qui est responsable.
Merci beaucoup, François. Jeff, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, sur.
Vous avez la parole.
Bonjour, sur votre prospect au plateau. À tous les auditeurs de Radio Capi. Ma question est la suivante.
Oui, quel est votre avis? Jeff, s'il vous plaît, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez, comme les autres l'ont dit, que le premier responsable dans cette affaire, c'est le gouvernement?
Bon, tout le monde, on peut indexer toujours le gouvernement parce que nous savons que c'est le gouvernement qui est la genèse de toutes les choses. Et moi, j'aimerais un peu savoir d'où viennent tous ces banques qui sont installées au Congo. Et puis, la deuxième question, c'est de savoir quel est le critère que le gouvernement donne à ces banques avant de s'installer au Congo.
Alors, Jeff, s'il vous plaît. Allô?
Allô?
Est-ce que vous avez eu, vous, à mener une étude pour savoir comment ça marche, le système bancaire en RDC? À quel niveau vous sentez-vous qu'il y a quand même des faiblesses? À quel niveau sentez-vous qu'il y a des faiblesses, Jeff?
La faiblesse, en est que parce qu'il y a les échecs à répétition, les systèmes bancaires sont toujours en faillite. Parce que moi aussi, je suis victime d'une coopérative au Maniema depuis que la coopérative est installée au Maniema et a tombé en faillite avec tout mon argent. Jusqu'ici, j'ai toujours à souffrir.
Voilà, merci. Voilà la sécurité de l'épargne ou comment on sécurise l'épargnant. Donc, c'est ça la question. Professeur, on va conclure avec vous après avoir écouté les uns les autres qui ont préféré échanger avec nous au cours de cette émission autour de cette question orale avec débat proposée par l'honorable Jean-Lucien Boussa. au niveau de l'Assemblée nationale et qui a fait d'ailleurs l'objet de l'interpellation donc du gouverneur de la Banque centrale prochainement pour apporter l'éclairage dans cette affaire de la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Professeur Bakandeja.
Monsieur Gérard, je crois qu'on n'en est plus aujourd'hui à la recherche des responsables. Hein? Quand le vin est tiré, il faut le boire. Alors, ce qu'il faut maintenant, ce sont des actions. Parce que la situation de la BIAC peut avoir des effets sur le fonctionnement d'autres banques. Donc, il faut agir, et je pense que le fait que le gouvernement et la banque centrale aient agi en mettant à la disposition de la BIAC les moyens nécessaires pour contourner les effets de la crise qui a été provoquée, c'est ça qui est le plus important. Nous devons garder la confiance dans notre système bancaire et l'action doit être menée maintenant au niveau de la Banque centrale pour contrôler les activités des autres banques qui présentent des situations pas tout à fait orthodoxes en termes d'octroi de crédit à leur clientèle.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que, finalement, l'indépendance de la Banque centrale soit constatée et aussi observée par tous, quoi?
Mais ça, c'est une question de volonté politique. Hein. Il faut s'assumer. Soit on veut l'indépendance de la banque, et en ce moment-là, on doit définir quels sont les objectifs que la banque doit poursuivre et se limiter à ces objectifs-là. Soit on veut voir la banque continuer à jouer le rôle à la fois de caissier de l'État, donc voilà, la banque est à la fois jugée partie, caissier de l'État, supervision conseiller du gouvernement. Il faut éclaircir la situation pour permettre à cette banque de jouer le rôle que jouent toutes les banques centrales. Il faut se servir des exemples de banques, la Banque centrale de l'Afrique, des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, même les banques européennes, et qui ont des objectifs bien définis. Alors, si chez nous on mélange les objectifs et puis on veut que la banque fasse le travail du gouvernement, ça crée un peu de désordre.
Voilà, merci beaucoup, professeur Bakandeja, d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission qui a été réalisée par Pierrot et la Belgique. Et Elite Sidiakala a été à la mise en onde. Julie César Bongonda a assuré le standard. J.R. Lugembo a eu le plaisir de coordonner et de présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangoui. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs.